Nous nous tournons vers nos invités qui, comme l'a annoncé Claude Giraud au début de cette émission, vont nous parler de la Sainte Technique d'Argenteuil. C'est Winfried Burmeling qui, depuis plusieurs années maintenant, organise un pèlerinage à Argenteuil. Nous avons à ses côtés Monsieur l'abbé Daniel Vigne et Madame Marie-Claire von Osterwick. Merci beaucoup, Madame, d'être parmi nous, parce que je sais que vous êtes venue du Sud. Merci infiniment. Winfried Burmeling, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit, ce pèlerinage, depuis combien de temps, et ensuite nous demanderons l'aspect scientifique à Madame von Osterwick.
Oui, c'est le pèlerinage à la Sainte Tunique d'Argenteuil, conservée à Argenteuil depuis l'an 800 ou 801, puisque Charlemagne l'a amenée à cette époque et elle est restée depuis là-bas. Vénérée à travers les siècles, parfois plus, parfois moins, mais les dernières cinquante ans, plus du tout. Et il y a 4 ans, nous avons pu prendre, avec la Fraternité Saint-Pilis, l'initiative de une sorte de recommencer ce pèlerinage. On était 130 la première année, il y a 4 ans, et puis graduellement 300, 400, et l'an dernier nous étions effectivement déjà 500. Donc c'est une belle promesse. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour la France qu'un tel cadeau de Dieu, de conserver la tunique que le Christ a portée pendant sa passion, qui est trempée de son sang et mérite toute notre estime, notre vénération.
Ce que j'aime vous entendre dire cela avec votre accent, parce que vous êtes le plus français des Allemands.
Oui, je viens d'un pays qui a aussi une sainte robe, c'est celle de Trèves. Et c'est pourquoi ça m'a intrigué dès le départ. Qu'est-ce que c'est cette tunique en France, n'est-ce pas? C'est comme ça.
Donc vous avez craint la concurrence.
Là-bas, on le voit comme ça.
Mais un petit mot sur la robe de Trèves, justement.
Un petit mot. Alors on a fait 3 pèlerinages à partir d'Argenteuil à Trèves. Mais là-bas, ils ne veulent pas nous rendre la pièce. Mais ils disent non, il n'y a qu'une robe du Christ, c'est celle de Trèves. Par contre, ils ne croient pas à l'authenticité de la robe de Trèves. C'est
alors ils la vénèrent sans croire en son authenticité.
C'est ça, au moins les autorités, parce que peuple, parce que il accourt quand même. La dernière fois, ils étaient 75 000, par exemple. Hein. Donc, c'est quand même encore un très beau pèlerinage. Oui. Par contre, la tunique elle-même, la robe, comme ils l'appellent là-bas, des rocs, des heilige rocs, il n'est plus visible. Ce qui est magnifique en France, cette sainte tunique à Argenteuil, on peut la vénérer en la regardant à travers une petite fenêtre.
Dans elle la est protégée, mais...
On peut laisser poser son regard sur cette tunique, et c'est unique. Même le linceul de Turin, vous ne pouvez pas le voir, sauf lors des ostensions, ou en Géorgie, la fameuse tunique du Christ en Géorgie. Tout ça, c'est enseveli, c'est montré très très rarement. Et là, à Argenteuil, elle est en toute simplicité, toute humble. On peut voir, on peut s'agenouiller, on peut prier.
Et elle est bien conservée, c'est un miracle.
Oui.
Elle est bien conservée, elle est belle.
C'est la grâce de France qui sait faire. Parce que nous, en France, on n'a pas d'ordinateur pour gérer l'humidité et la température, comme font les Allemands, etc., et à Turin. Mais on ne fait rien du tout, et voilà, qu'elle est magnifique. Elle tient encore sur un cintre.
Alors, nous parlons justement d'authenticité. Je me tourne maintenant vers Madame von Osterwick. Vous êtes beaucoup passionné, on peut dire, pour le Saint-Suaire. Vous avez beaucoup travaillé et vous savez comme moi que certains scientifiques contestent. Je voudrais dire un petit peu vos titres. Donc vous êtes à la retraite, mais comme toutes les personnes retraitées, vous devez beaucoup travailler. Les gens qui sont à la retraite, en réalité, sont très actifs. Vous êtes docteur en sciences de physique-chimie, n'est-ce pas, de l'Université de Louvain. Vous avez un diplôme très rare qui est propre à la Belgique, c'est le diplôme d'agrégé.
D'enseignement supérieur et de professeur d'université. Je vais vous dire que ce diplôme est spécifique à la Belgique et plus personne ne prétend l'acquérir parce qu'on suppose que le récipiendaire domine la science actuelle. Maintenant, il n'y a plus personne. Je crois que je suis la seule femme, je crois, à avoir essayé. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai fait des découvertes qui dérangeait tellement mes supérieurs hiérarchiques que le directeur de l'établissement scientifique où je travaillais a demandé que je les fasse avaliser par des spécialistes. Et il a réuni tous les professeurs de minéralogie et de géologie de Belgique. Et j'ai défendu cette thèse qui est très difficile à défendre en montrant que des minéraux supposés, on le lit dans les journaux, dans les livres, se former en des millions d'années, pouvaient se former grâce à la structure de l'eau que je modifiais à ma façon en quelques minutes.
Alors, justement, vous avez réuni, synthétisé, on peut dire, tous vos travaux dans un ouvrage qui est paru en 1999 aux éditions François-Xavier de Guibert et qui s'intitule « Le radiocarbone face au linceul de Thurès ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu un mot? Parce que vous avez, je crois, pas mal critiqué la méthode de mesure du temps conçue par Libby. Qu'est-ce qu'il en est?
Eh bien, je m'aperçois d'une chose. Quand j'ai voulu expliquer mon point de vue aux gens du CIELT, ils ne m'ont pas compris. Et j'ai compris pourquoi ensuite. C'est que, par exemple, M. Salet, M. Van Coenberg étaient beaucoup trop anciennement documentés. Et une chose aussi que j'ai découverte et qui est très importante, c'est que Libby a mis sa méthode au point dans les années 40, au moment où on n'avait pas encore découvert la structure de la matière, qui ne s'est faite que dans les années 50-60. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à la structure de la matière, il ne s'intéresse qu'à la mesure du radiocarbone, et par des raisonnements qui sont faux, je démontre qu'ils sont faux, il le relie au temps. En réalité, ce qu'il mesure, ce sont des pollutions. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'est très bien, je reconnais que le radiocarbone se forme dans la haute atmosphère, est absorbé par les plantes, tout le monde l'a appris, est mangé par les animaux meurent et tout cela. Mais quand ils sont morts, ces animaux sont dans le sol. Et il y a les solutions du sol qui les transportent d'un endroit à l'autre, et c'est-à-dire que n'importe quel corps qui est dans le sol a des pollutions qui ne correspondent pas à l'âge. Et les seuls âges corrects, ce sont des objets qui sont conservés dans des milieux secs et à l'abri des pollutions. Par exemple, les objets des généalogies égyptiennes, par exemple, ce sont en général pas toujours de bons... Ils sont
protégés dans les pyramides, c'est ça?
Voilà. Oui. Et c'est un climat sec. De même que les spécialistes radiocarbone qui vont choisir leurs témoins vont prendre des tissus en milieu sec. Par exemple, le linceul de Cléopâtre de Thèbes, ben, c'est encore une fois un linge égyptien. Tout ce qu'ils ont choisi comme témoins, ce sont des tissus conservés en milieu sec. Ils les auraient pris en milieu humide, eh bien, ils auraient obtenu de mauvais résultats et ils le savaient très bien.
Ce qui fait qu'à vos yeux, d'après vos recherches, vos travaux, vos découvertes, la datation carbone-carteuse n'est pas fiable.
Absolument pas.
Mais il faut rester toujours très près du micro.
Il y a eu une grande polémique à propos du linceul de Thurin.
Exactement, on avait dit que c'était du Moyen-Âge.
Ah, mais oui, ben parce que ça faisait tant plaisir à certains. Vous devinez lesquels. Bon, alors, ce qu'il y a, ça s'est passé en 1988, on a déclaré, ça a été le docteur Tait, d'abord le cardinal Balestrero a approuvé l'âge médiéval, il faut bien dire. Après, il s'est rétracté, mais au fond, ce qu'il y a, ce dont je me suis aperçue, c'est que ces hommes d'église sont complètement dépassés par la technique moderne. Et alors, ils prennent pour de véritables saints les gens, les spécialistes radiocarbones. Or, ce ne sont pas toujours des saints. Et alors, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille et dès le début, c'était le calcul statistique, parce qu'on disait, voilà, vous voyez bien que c'est bon, c'est exact à 95%. Mais ce calcul statistique, moi je ne suis pas statisticienne, mais j'avais collaboré à des calculs statistiques, et c'est un calcul où il faut de grands nombres. Faire un calcul statistique avec les résultats de 3 laboratoires, c'est une chose que j'avais jamais vue. Et je me suis dit, ça cache quelque chose. Eh bien oui, ça cachait quelque chose. Les 3 statisticiens qui se sont intéressés au linceul ont montré que le calcul était faux. Puis j'ai confié mon livre à l'Académie des sciences, ici à Paris, et le docteur Perrier a confirmé que le calcul statistique était faux, qu'il était fait d'une façon fantaisiste. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tout dernièrement, le nouveau directeur d'Oxford, le docteur Christopher Brank Ramsay, vient de dire, mais nous nous sommes peut-être trompés, le calcul, cette valeur du Moyen-Âge est sans doute fausse. Et tout le monde s'est incliné en disant, mon Dieu, s'il l'a dit, c'est certainement vrai. En fait, toujours est-il que je ne sais pas si je dois en parler, j'étais en relation épistolaire avec ce garçon, que je trouve très sympathique en réalité.
Et il a fait sa déclaration il y a combien de temps? Il découvre qu'on s'est peut-être trompé depuis combien de temps?
Eh bien, depuis l'an dernier, ça se passe au mois de janvier. Mm-hmm. Ça a été édité dans 2 journaux italiens. Maintenant, je ne vois plus lesquels. Enfin, peu importe.
Et à la BBC.
À la BBC aussi, il l'a dit.
Il a eu au moins cette honnêteté, de reconnaître.
Mais je ne sais pas où il va. Parce qu'après, il a dit le contraire.
Ah.
Bon. Toujours est-il que je lui ai écrit. Il a commencé par ne pas répondre. Ça, c'est régulier. Quand on écrit un spécialiste radiocarbone, il ne répond pas. J'ai réécrit en disant, je regrette, mais vous avez proposé vous-même de répondre aux questions. Voilà, que pensez-vous du calcul statistique de Nature? Oh là là, c'est fini, c'est de la vieille histoire, nous n'y croyons plus. Moi, je n'y crois pas. Alors bon, je ne sais pas. Alors, je l'ai poussé dans ses retranchements. Nous avons eu un échange de correspondance, à peu près 5 lettres auxquelles il répondait toujours très courtoisement et toujours à côté de la question. Très anglais. À la fin, où je pense que je l'ai coincé, il m'a dit, écoutez, madame, arrêtons, je suis fatiguée. Noël est proche, j'ai envie de prendre des vacances. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on arrêtait notre discussion, moi j'ai dit mais volontiers, nous reprendrons plus tard.
Maintenant que Noël est passé, vous allez reprendre la discussion.
Non, je ne vais pas reprendre directement, parce qu'avec ce qu'il a dit, moi je l'ai coincé. Maintenant, est-ce que les gens comprendront? Mais ce qui m'a tout à fait semblé étonnant, c'est qu'il m'a dit, parce que parmi les statisticiens, il y en a eu 3. Il y a eu Boursier de Carbon, il y a eu Van Alst, qui est un Anversois, qui a passé sa vie à faire du calcul statistique sans avoir tous les diplômes et toutes les couronnes habituelles, mais enfin c'était son métier, et dès qu'il a vu ce calcul statistique de Nature, il a dit ce calcul ne vaut rien. Et alors, on lui a répondu, mais oui, mais c'est très bien, vous avez fait du calcul statistique classique, mais nous n'avons pas fait ça. Nous travaillons toujours avec le calcul Ward et Wilson. Et comme Van Hals est quelqu'un de très têtu, il est un Belge, est toujours très têtu, et qu'il est d'Anvers, c'est très près de Londres, il est allé à Londres, il a appris le calcul Ward et Wilson, et il a montré que les données étaient fausses aussi par le calcul de Ward et Wilson. Tout fier de ça, il écrit à Ramsay. Et Ramsay lui dit, oui, mais c'est fini le calcul de Ward et Wilson, c'est démodé, on s'en sert plus. Maintenant, moi, j'utilise le calcul de Bayes. Et alors, Van Hals m'a écrit, mais c'est extraordinaire, c'est un calcul beaucoup plus vieux que n'importe lequel, que personne n'utilise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? En réalité, ils nous perdent avec des calculs statistiques pour nous dérouter. Et ça, j'ai compris. C'est-à-dire que il y a tant d'approximations dans ce calcul qu'on ne peut rien dire. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la datation de la tunique d'Argenteuil, c'est que c'est moi qui suis à l'origine de l'expérience de Monsieur Lecotte. Monsieur Lecotte m'a demandé conseil. Et je lui ai dit, voilà, il avait reçu du tissu. Vous faites refaire en aveugle la même expérience qu'on a fait à GIF qui a donné 530-650 AD. Vous la faites faire, il a fait faire par Archéolab, qui l'avait fait à Zurich, qui est un des trois grands laboratoires auréolés de la science, puisque ils avaient daté le Saint-Suaire, sans dire de quoi il s'agit. Et voilà qu'ils ont obtenu un autre résultat. Et Monsieur Lecotte a un appareil, comme vous savez, qui lui permet de voir l'échantillon, de suivre l'échantillon, et en même temps d'analyser les constituants. Et il s'est aperçu d'une chose que nous on n'aura jamais pu le voir, et c'est une grande première parce que personne jusqu'ici ne l'a fait, que la sainte tunique était de la laine. Bon, ça, on le sait, des fils de laine très fins, mais elle était contaminée par des gros morceaux de calcite. Et comme vous savez peut-être, enfin toutes les dames savent ça, les substances se diluent d'autant plus vite qu'elles sont fines. Vous faites du sucre en poudre, ça se dissout plus vite que des morceaux de sucre. Mais ici, il y avait des gros cristaux de calcite. Le traitement, ils savent qu'ils ont des pollutions, et ils font toujours le même traitement qui s'appelle AAA, acide alcali acide. Acide, ça veut dire de l'acide chlorhydrique à telle concentration. Alcali, ça veut dire des bases. Et acide, c'est encore une fois un traitement acide. L'acide dissout la calcite, en principe. Et les alcalis dissolvent les matières humiques. Seulement, comme Libby ne s'est jamais intéressé à la chimie, eux ont continué après 40 ans, ils ne se sont pas rendus compte que la laine est aussi une substance organique et qu'elle se dissout dans l'alcali. Et quand ils ont terminé leur nettoyage, ils avaient dissous une partie de la laine sans dissoudre les gros cristaux de calcite. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien nettoyé du tout. Et ça, tous les radiocarbonistes le savent. C'est pour ça qu'ils doivent connaître l'histoire de l'échantillon, pour plus ou moins adapter la chose. Donc, les filles de GIF savaient qu'elles devaient obtenir une date antérieure à l'arrivée de la tunique en l'an 800 ou quelque chose, tandis que le spécialiste d'archéologue, qui ne le savait pas, a trouvé un âge de 880, c'est-à-dire après l'arrivée de la tunique, ce qui est embarrassant. En plus, ils ont trouvé ces grands cristaux. Ce que je ne comprends pas, j'avais écrit aux jeunes femmes d'Argenteuil en leur demandant est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous avez dissous la tunique en faisant ce traitement-là. Elles m'ont pas répondu. Elles n'ont pas voulu venir non plus, elles n'ont pas voulu discuter. C'est comme ça. En réalité, il faut connaître l'histoire. D'ailleurs, elles étaient un peu inquiètes parce que elles craignaient que la teinture de la tunique soit au murex. Qui est la pourpre des anciens. Mmh. Et lequel, c'est un coquillage. Et le coquillage donne, elles disaient, oui, voilà, ça va modifier l'âge. Mais tous les coquillages ont des âges qui ne sont pas l'âge actuel. Ils ont des milliers d'âges baissés trop anciens. Et c'est ennuyeux parce que c'est comme ça qu'on date les couches géologiques.
Une question, alors je me pose comme nos auditeurs certainement, est-ce qu'il y a eu justement des travaux, des congrès, des colloques autour de la Sainte-Tunique? Je crois que vous, Winfried Vermeling, vous avez organisé un colloque sur cette question.
Oui,
voilà.
Oui.
Et vous avez l'intention de poursuivre justement ces travaux?
Mais moi, j'ai parlé à ce colloque. Hein.
Oui. Oui. C'était il y a combien de temps?
C'était il y a 4 ans, juste un an après ce faux résultat chronologique du carbone 14 sur la Sainte-Tunique. Et en riposte, on a dit, bon, on va répondre par un congrès en appelant tous les scientifiques qui ont quelque chose à dire. Il y en avait une douzaine du monde entier et on avait la salle municipale d'Argenteuil avec le maire adjoint qui est venu ouvrir le congrès. Vous voyez, c'était vraiment fondé et on a pu éditer après les actes qui sont toujours disponibles chez De Guy Berne. Hein, on les a imprimés.
C'est pas facile, hein.
Et là, Mme van Oosterweyck a fait pratiquement, disons, le discours principal. Justement parce qu'il y avait ce faux résultat, il fallait dire pourquoi c'est faux. Et c'était tellement désarmant que les adversaires ne se sont pas pointés. On les a tous invités et personne n'est venu.
C'est-à-dire qu'après, on m'a dit, oui, mais on ne nous a pas laissé parler. Mais si on les a laissé parler.
On les a invités officiellement.
On les a invités, ouais. Eh bien non. Il paraît que...
Mais toutes les autres sciences étaient positives et convergentes, strictement parallèles à ce qu'on sait sur le linceul de Turin. Là, je pense que tous les auditeurs savent un peu ce qui s'est joué avec le carbone 14 et toutes les autres sciences.
Je crois peut-être, M. Véronique, qu'il faudrait le rappeler en deux mots, ce qui s'est passé avec le carbone 14 et la datation et le linceul de Turin.
Oui, enfin, moi je pense, j'ai lu qu'il y a 32 sciences qui se sont penchées sur le linceul de Turin. Et là-dessus, il y en a 31 qui ne trouvent aucune. Une, c'est le carbone 14 qui dit c'est un faux. Et tout le monde crie, voilà, c'est un faux. Et c'est un peu dommage.
Et oui, disant que le carbone 14, c'est absolu.
C'est l'arme absolue.
C'est l'arme absolue, ouais. Il ne se trompe jamais, voilà. C'est ce qui a fait.
Mais maintenant, il ne le croit plus.
Oui, mais chère madame, il n'y a pas de réfutation, je suppose, de leur part. Personne ne le sait. Oui, mais c'est pas publié.
Ah, mais ça ferait trop mal au corps.
Mais voilà, grand public de personnes qui, après cette affaire du carbone 14, se disent, mais après tout, le linceul de Turin, il n'est pas véritable, authentique.
Mais les évêques, les premiers, notre évêque, il a...
Et la tunique d'Argenteuil et d'autres, ben ça non plus, c'est pas authentique. Tant qu'il n'y a pas de réfutation officielle et de déclaration officielle, on s'est trompé. Ouais. Volontairement ou pas.
Ça serait trop beau.
Ça, oui.
On peut dire que les revues de vulgarisation scientifique tiennent toutes pour info.
C'est un peu leur... leur façon de gagner leur vie.
C'est leur fonds de commerce, je veux dire.
Comment vous expliquer?
Le radiodiacarbone, d'abord, je ne sais pas si vous êtes scientifique.
Pas du tout.
Ben voilà. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'existe pas de méthode absolue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Par exemple, quand on dit qu'il y a un kilomètre, c'est par rapport au mètre étalon. La science radiocarbone n'a pas d'étalon, c'est ce que je dis dans mon livre. Ça repose sur des hypothèses. Et ces hypothèses, quand on les gratte un peu, elles sont fausses. Et il y a aussi une chose, c'est que quand Libby a mis sa méthode au point, il ne connaissait pas la structure de la matière. Et celle-là est venue quelque chose comme 10 ou 15 ans après. Et les spécialistes radiocarbone savent très bien, maintenant, que leurs méthodes de nettoyage ne sont pas efficaces. Et le professeur Gove, qui est un des très très grands spécialistes radiocarbone, l'a reconnu dernièrement en disant qu'il avait vraiment honte de le dire, de le reconnaître. Les méthodes de nettoyage étaient incapables de restaurer l'âge. Ce sont deux choses différentes. On mesure du radiocarbone, d'accord. Ces appareils coûtent une fortune. Ils n'ont pas envie de perdre la poule aux œufs d'or. Ils trouvent des âges. Et c'est intéressant de voir qu'avec exactement le même mode opératoire à GIF et à Zurich, ils obtiennent deux âges différents. Je suis sûre que si on avait dit à Zurich que c'était la Sainte-Tunique d'Argenteuil, ben, ils auraient trouvé la même date. Il suffit d'un petit peu d'ajustement, voilà.
Winfried Véronique, vous dites quelque chose.
Oui, je pense ce dernier bastion, si vous voulez, contre l'authenticité de nos chères reliques du Christ à Turin, à Argenteuil, il est déjà tombé. Et les ennemis de l'Église le savent. Et voilà. J'ai l'impression que le front recule actuellement. Vous voyez, maintenant, ils n'attaquent plus l'authenticité et l'historicité du Christ. Ils commencent à dire, oui, il y a peut-être quand même quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui a vécu, mais ce n'est pas Dieu. Mais il a eu des puces. Mais ceci, cela. Vous voyez, le front se recule et aussi nous, apologétiquement, il faut adapter un peu notre manière de voir. Moi, je pense que c'est magnifique parce que maintenant, on est de nouveau devant l'homme Jésus-Christ et le fidèle. Et il est devant la question, je crois ou je ne crois pas. Est-ce que c'est Dieu? Et c'est magnifique.
Alors, oui. Vous parlez justement donc de notre foi. En Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mais on ne peut pas expliquer le miracle de la résurrection, ça ne s'explique pas. Néanmoins, vous, madame, qui avez travaillé sur ces questions, est-ce qu'on peut savoir comment l'image a été produite sur le Saint-Suaire?
Mais on le sait aujourd'hui, et c'est ça qui est merveilleux. Si je peux faire un peu de bruit...
Attendez, rapidement, puisque vous avez dans un petit sac quelque chose... ça y est, on va... Voilà,
c'est bien. Chut. Voilà, ceci c'est un cadeau du professeur Testoré qui a refait au laser à très grande énergie, à très grande vitesse, il a refait le visage du Christ. Remarquez que ce n'est pas, il l'a fait point par point.
Alors, je vais décrire à nos auditeurs qui n'ont pas l'image. Donc c'est dans un plexiglas, un fragment de tissu où on retrouve effectivement le visage du Christ tel qu'on le voit sur le Saint-Suaire. Et ça a été fait, donc, là on peut dire, fait de main d'homme, ça.
Fait de main d'homme.
Comment est-ce qu'il a fait ça?
Il y en a un autre, maintenant, l'an dernier, un certain Baldacchini, qui a refait la même chose, au laser, à très haute fréquence, dans l'ultraviolet, des impressions de 100 nanosecondes. Une nanoseconde, c'est un millionième de seconde. C'est-à-dire que le corps s'est désintégré entièrement au moment où il y a eu le grand tremblement de terre, le linceul s'est déployé, le Christ s'est relevé, le linceul s'est déployé des deux côtés du corps du Christ. L'image, le Christ montait, vous pouvez remarquer sur l'image du Saint-Suaire que les membres sont allongés. Le Christ montait vers le haut, ses cheveux étaient blancs comme neige, comme il est dit dans l'Apocalypse. Les linges, les otonias, ce n'étaient pas des bandelettes comme on croyait, c'était le grand linceul. Et s'il était enveloppé, enveloppé à la manière juive, j'ai lu, il y a un monsieur qui m'a envoyé en disant qu'il était spécialiste des enterrements juifs, et que ça se faisait comme ça, il y avait le tissu, et puis on arrachait une bande de tissu sur le côté, il y a une bande latérale que personne ne sait ce que c'est, et bien c'était ça, qu'on a recousu après. On le mettait autour du cou, autour de la taille et autour des pieds. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est le Sudarium d'Oviedo. Le Sudarium d'Oviedo, c'est le troisième grande relique du Christ qui est moins connue et qui a peut-être été la mieux étudiée parce que les Espagnols ont vraiment travaillé avec beaucoup de soin, une très grande conscience professionnelle. Ce sont d'ailleurs les seuls qui ont fait allusion aux évangiles et à l'histoire que nous connaissons. Vous pouvez remarquer que dans le cas du linceul de Turin, comme dans le cas de la tunique d'Argenteuil, les gens qui l'ont étudié, les gens de M. Pitiot, du laboratoire des... le laboratoire, je ne sais plus comment, ils ont toujours évité de faire une relation avec l'évangile. C'était comme n'importe quoi, sauf l'historicité de l'objet. Tandis que les Espagnols ont fait autrement. Or, ils avaient, comme d'ailleurs à Argenteuil, des preuves le Sudarium venait bien de Jérusalem. Il y avait des papiers qui authentifiaient. Il a été ouvert en 1046 par le roi Alphonse VI devant le Cid Campeador et sa sœur Dona Urraca. Et ils ont retrouvé les papiers. Ils ont refait une attestation. Bref, ce tissu a enveloppé. Alors, ils l'ont étudié. C'est un tissu de 53 cm sur 83 qui était mis en double autour de la tête et attaché ici derrière. Je ne sais pas comment on dit. Le Christ avait une queue de cheval. Hein. Et ce linge était empreint de sang et de liquide pleural aux mêmes endroits que le visage du Saint-Suaire. On peut les mettre l'un sur l'autre. C'est d'ailleurs dans mon exposé. Et alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Quand Pierre et Jean sont arrivés au Saint-Pucre, Pierre est entré le premier, Pierre ne savait rien. Il n'avait pas assisté à l'ensevelissement, comme chacun sait. Tandis que Jean avait assisté, et c'est lui qui dit qu'il vit et il crut. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le sudarium qui était sur sa tête n'était plus sur sa tête. Et qu'il était roulé, et on ne sait pas s'il était au même endroit ou à un autre endroit. En réalité, j'ai lu dans la station Jean Carmignac une étude savante où on disait que le Eis... le Eis, c'était un judaïsme de Jean, et qu'en réalité, c'était au même endroit. Donc, le sudarium était resté Il n'était pas plié, il était enroulé au même endroit. Tandis que l'interamenta, les ottoniens, étaient posita, ce qui veut dire plié soigneusement. Et le corps avait disparu. Alors, il se dit, je pense, tiens, l'image, parce que je crois qu'ils ont vu l'image à ce moment-là, c'est dans la liturgie mozarabe, comme je l'ai mis là, l'image est sur le linceul, et l'image n'est pas sur le sudarium. Donc, il est vraiment ressuscité. Et il dit, ce n'est qu'alors que j'ai compris.
Alors voilà une belle introduction à l'aspect spirituel qu'on va demander à M. l'abbé Vigne. M. l'abbé, vous êtes tellement, vous, intéressé que, alors que vous n'êtes plus dans la région d'Argenteuil, vous allez revenir, d'abord vous êtes revenu, ça je tiens à vous remercier aussi, parce que vous venez de loin pour nous parler d'Argenteuil, et vous serez au pèlerinage.
Malheureusement, je ne pourrai pas être là, en raison des retraites que l'on prêche.
Donc, vous êtes au pointé.
Voilà, au pointé, où on reste unis à une certaine manière à ce qu'évoque la tunique d'Argenteuil, puisque la retraite est un des meilleurs moyens pour s'unir à la passion de notre Seigneur.
Alors, si vous n'y êtes pas physiquement, vous y serez spirituellement. Ça, je n'en doute pas une seconde. Dites-nous, donc, vous avez découvert cette tunique lors de votre séjour en région parisienne.
Voilà.
Vous avez combien d'années, vous avez exercé votre ministère pendant combien de temps en région parisienne?
Donc, un peu plus de 3 ans, donc, dans les chapelles de Conflans-Sainte-Honorine et de Pontoise, à Saint-Mathias.
Alors, qu'est-ce qui vous a semblé important dans cette tunique? Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de la valeur de cette tunique?
Le combat qu'il y avait autour de cette tunique, que je ne connaissais pas en fait au début, qui était relatif à la foi, comme on l'a déjà évoqué, il y a certaines personnes qui s'attache à dire que cette tunique n'est pas authentique et qui, en même temps, dénonce, au moins indirectement, toute cette dévotion dans l'histoire que les fidèles ont portée à cette relique. Et donc, bien sûr, la relique en elle-même n'est pas un objet de foi, mais elle est relative à un enseignement propre à la foi et aussi à une pratique de fidèles qui ont eu la foi durant toute l'histoire de cette tunique.
Donnez un petit peu peut-être les grandes étapes historiquement. Je vais vous nous rappeler donc, c'est la fille de Charlemagne qui reçoit.
Voilà. Cette tunique. C'est l'impératrice Irène de Constantinople qui était en proie des guerres avec les musulmans et puis aussi avec les iconoclastes, qui a eu la riche idée de donner cette relique à un autre amoureux des reliques, Charlemagne lui-même, qui l'a donc reçue en 801 et qui l'a confiée à sa fille qu'il avait fait supérieure du couvent d'Argenteuil, et où il y avait également la sœur de Charlemagne. Voilà, comme ça, il était entre de bonnes mains.
La tante et la nièce étaient là.
Voilà. Et cette tunique a été de suite l'objet de grandes vénérations. Elle a même été demandée par beaucoup de villes pour augmenter la foi des fidèles dans la passion du Christ.
Donc, et Argenteuil, elle est entourée on peut dire, d'une véritable vénération. Enfin, c'est une basilique qui lui sert de reliquaire.
Tout à fait, la basilique Saint-Denis, qu'on voit sur l'affiche, là, pour publiciter le pèlerinage à Sainte-Tunique. Effectivement, la basilique a été, entre autres, construite pour la tunique, pour mettre en valeur la tunique d'Argenteuil. Il était même question de faire des fortifications à la ville d'Argenteuil pour protéger la tunique. Il y a eu même un édit royal, je crois.
Oui, c'était au XVIe siècle. Hein. C'est-à-dire, c'était d'abord l'abbaye bénédictine qui l'avait gardée pendant 1000 ans. Mm-hmm. Et à la Révolution, donc, elle a été rasée, cette abbaye. Et la tunique, officiellement et solennellement, transférée à l'ancienne église paroissiale, qui a été remplacée en vue des grandes processions du XIXe siècle, reconstruit une basilique pour accueillir les pèlerins. Elle est vraiment très grande, cette église, et nous, on en profite chaque fois.
Elle est ouverte pour le pèlerinage, vous pouvez y prier.
C'est ça.
Et je crois que
on peut prier tous les jours. Tous les jours, elle est ouverte à cause de la Sainte Tunique, de 15h à 17h, tous les jours. Sauf le dimanche, c'est de 16h à 18h. Alors, si vous venez à 4h, c'est toujours ouvert, même le dimanche. Hein, donc, 4h à 5h, elle est toujours ouverte.
Et je crois que dans les armes de la ville d'Argenteuil, la Sainte Unique elle-même est représentée. Donc,
oui,
vraiment.
À côté des asperges.
Ah, voilà.
Les asperges sont géantes et la Sainte Unique est toute petite.
C'est quand même une grâce parce que le blason de la ville a été remanié. Et récemment, et la tunique est restée sur les armes de la ville. Donc, c'est une grande délicatesse de la Providence qui nous met le doigt sur les richesses, comme vous l'aviez si bien dit au début du.
La ville était 50 ans sous municipalité communiste, jusqu'à il y a 7 ans environ, et toujours, la Sainte Tunique est restée dans l'emblème de la ville. On ne peut pas toucher.
Ils n'y ont pas touché.
Non.
Alors, bien sûr, on se dit, c'est une relique de la Passion, c'est une relique de Jésus-Christ. Je sais que vous, monsieur l'abbé, vous n'hésitez pas à dire aussi, c'est une relique de la Sainte
Vierge.
Oui. Alors, expliquez, ça c'est un peu paradoxal, non ?
Oui, voilà. Donc, c'est d'ailleurs, lorsqu'on se penche sur la relique, le fait qu'elle soit mariale est un signe supplémentaire de son authenticité. Que ce soit une relique mariale n'est pas étonnant, puisque notre Seigneur vivait ce qu'il prêchait. Il montrait l'exemple et il prêchait la pauvreté. Or, dans ces temps-là, la mère de famille pourvoyait aux vêtements des membres de la famille, et plus particulièrement des vêtements de corps, comme la tunique, justement, d'Argenteuil. Si bien que il est probable que cette tunique soit une tunique tissée par la Sainte Vierge elle-même, et c'est ce qu'a toujours cru le peuple chrétien. Et la science est venue conforter cette pieuse coutume en analysant le tissu. Donc, dans les années 1800, au XIXe siècle, des spécialistes de fabrique, de manufacture, de Beauvais, et donc de véritables scientifiques de l'époque, ont étudié les tissus et se sont rendus compte que le tissu ne pouvait être fait qu'à partir d'un métier artisanal, très primitif. Et un métier qui ne peut pas donner du tissu de très bonne qualité. Et un deuxième constat, qui paraît contradictoire, est que le tissu, la trame du tissu, est parfaite. Très parfaite, et même plus parfaite que les tissus qui nous ont été transmis de la même époque, et qui ont été faits à partir de métiers professionnels, artisanaux de l'époque. Voilà, donc on se aperçoit qu'il y a un tissu qui a été fait à partir d'un métier primitif et dont la qualité est supérieure au métier professionnel. Et donc rejoint le fait que ce ne pouvait être qu'une femme forte, parfaite, sainte, comme la Sainte Vierge, qui a pu faire un tel chef-d'œuvre, qui dépasse même les plus grands artistes de l'époque.
Alors ça, ce sont des observations qu'ont faites, monsieur l'abbé, des scientifiques, vous disiez, au XVIIIe siècle.
En 1893,
oui. Au XIXe siècle. Et depuis, est-ce qu'ils ont été contredits ou au contraire approuvés ?
Non, ils n'ont pas été contredits. Au contraire, puisqu'on voit qu'il y a deux manières de tisser, en Z et puis une autre méthode, je ne me souviens plus. Voilà. Et donc, non, les précisions actuelles confirment ces constats de 1893. Voilà.
Bien, bien. Si d'ailleurs il n'avait pas confirmé, on en aurait beaucoup parlé.
Voilà.
Madame. À ce propos, il y a, ce sont les monuments historiques qui ont fait la nouvelle analyse du linceul. Les monuments historiques dirigés par Monsieur Pithiot, qui est d'ailleurs docteur en sciences, et il a fait.
Ah, il s'agit donc pas du linceul, mais de la
tunique. De la tunique,
c'est ça exactement. Voilà.
Il a fait réétudier la tunique par une spécialiste en textile qui dit que ce tissu est extrêmement bien fait et qu'on ne se serait pas donné autant de mal pour faire un faux.
Alors, c'est intéressant comme argument.
Oui. Sans jamais parler, je vous dis, ils ne font aucune allusion à l'histoire de la tunique.
Oui.
C'est toujours laïque.
Oui.
Alors aussi, une chose intéressante, c'est, comment est-ce qu'il s'appelait encore ? C'est Météso, je crois, qui a dit qu'on n'avait pas trouvé de sang.
Oui, Météso.
Oui.
Et si vous allez sur le site d'Argenteuil, la tunique d'Argenteuil, vous verrez qu'on cite l'âge moyenâgeux qu'on a trouvé à Gif. On ne dit pas un mot de l'âge de Zurich et de tous les problèmes qu'il pose du point de vue scientifique. Mais il ne parle pas du sang. Et pourquoi ? Bien que dès 1932, je crois que c'est un certain Pacro qui avait trouvé du sang, avec tous les moyens d'époque. Maintenant, il y a des moyens beaucoup plus perfectionnés pour rechercher le sang. Ils s'en sont abstenus. Alors, ils ne l'ont pas trouvé.
forcément.
Mais oui, mais...
mais ce qu'on ne cherche pas, on ne trouve
mais
pas.
Oui. Alors, vous allez sur le site, on vous dit, voilà, c'est le moyenâgeux, la preuve, l'âge absolu trouvé à Gif. Il n'y a pas de sang. C'est une copie de moyenâgeuse. Oui.
Et vous savez qui avait étudié aussi ces questions. Je crois que vous avez lu cet ouvrage où on dit qu'au XIXe siècle, l'évêque de Versailles s'intéresse à la question et on trouve là, avec des moyens qui ne sont pas les moyens perfectionnés d'aujourd'hui, mais on trouve du sang fin XIXe. De qui s'agit-il ? Qui est l'évêque de Versailles à l'époque ?
Voilà donc, en 1882, Monseigneur Gou, évêque de Versailles, désire savoir précisément s'il y a réellement du sang ou au moins des traces de sang sur cette tunique, car on peut remarquer à l'œil des zones beaucoup plus brunes que le reste du tissu. Donc Monseigneur voulait à tout prix avoir le cœur net en utilisant les moyens scientifiques de l'époque et on arrive à des constats, à des procès-verbaux très précis. Donc à l'époque, ils n'étaient pas moins scientifiques qu'aujourd'hui. Donc on peut tenir quand même compte de leurs constats qui sont passés par l'épreuve du temps. Et il conclut, ces procès concluent sur la trace de sang, les traces de sang disposées de telle manière que l'on peut très bien s'imaginer le fardeau qu'aurait pu porter l'homme qui portait la tunique. Et donc on voit en nouveau des résultats qui confortent l'authenticité de cette tunique par rapport à la passion de notre Seigneur.
Le fardeau est dans la croix.
Et le fardeau est dans la croix qui appuyait, écrasait le tissu sur les plaies de la flagellation. Et donc ça aussi, c'est fantastique, parce qu'ils sont très précis. Ils sont assez fantastiques. Et c'est sûr que ça nous porte davantage à vénérer cette tunique et à considérer davantage les réalités qui dépassent cette tunique, donc les mystères de foi qui sont derrière cette relique.
Ce pèlerinage dont on va donner maintenant tous les renseignements pratiques quant à l'organisation aura lieu donc là, à la veille de la Passion, pour le dimanche des Rameaux. C'est bien ça, Winfried Mürleding?
Oui, cette année, c'est exceptionnellement aux Rameaux. Normalement, on le fait le premier dimanche de la Passion, mais les Rameaux, c'est le deuxième dimanche de la Passion. Mais c'est aussi beau parce que c'est le début de la Semaine Sainte.
Voilà.
Et on commence cette magnifique semaine avec déjà la procession des Rameaux et ceux qui le peuvent, l'après-midi, la vénération de la Sainte Tunique du Christ qu'il a portée pendant sa Passion.
Et donc,
alors,
toute cette semaine, il va y avoir le récit de la Passion. Donc, les gens pourront véritablement bien s'imprégner, grâce à ce pèlerinage, du récit de...
Alors, pratiquement, elle commence la procession, on fait la procession ancienne, oui, à travers le centre-ville, ça se passe toujours très très bien, avec protection la police, etc. Alors, à 15h, départ de la procession, c'est donc les Rameaux, le 5 avril, à 15h, départ de la procession au parking près de la Seine, pour ceux qui sont déjà venus, ça s'appelle le parking Villard, à cause de la salle des fêtes qui s'appelle Villard. Alors 15h, départ de la procession. Pour ceux qui viennent de Paris, plus pratique serait de nous rejoindre à la gare où la procession passe à 15h30. 15h30, on passe devant la gare d'Argenteuil. En venant de Saint-Lazare, en 12 minutes, on est là. Il y a des trains tous les 20 minutes, donc si vous prenez une demi-heure avance, vous êtes largement dans les temps. Et de la gare, c'est un chemin tout droit, c'est l'ancien chemin de procession, tout droit jusqu'à la basilique. Et on arrive à la basilique à 16h. Et là, on fait comme on a fait les dernières années avec la vigne à chaque fois, le chemin de croix, un magnifique chemin de croix qui est resté dans cette basilique. Il est tellement beau qu'on ne pouvait pas l'enlever. Par les monuments historiques. Et on arrive tout naturellement à la 14e station, justement, à la chapelle qui contient le grand reliquaire de la Sainte Tunique, avec les dévotions spéciales à la Sainte Tunique que nous avons retrouvées dans les vieux livres, la fameuse prière immortelle, etc., que le prêtre prononce. Et puis on continue les dernières deux stations du chemin de croix. Et c'est la fin, donc ça dure une heure à l'intérieur de la basilique. Fin de la cérémonie, donc à 17h. Vous voyez, de 15h à 17h, la procession à la Sainte Tunique d'Argenteuil, le 5 avril.
Alors rappelons qu'Argenteuil est à combien de Paris? Combien de minutes en train? Combien de minutes en voiture?
Argenteuil-Paris, c'est tout près. En vol d'oiseau, c'est pas loin, c'est 6 km, vous voyez. Mais en train, vous mettez selon le train, n'est-ce pas? Entre 8 et 12 minutes. Il y a beaucoup de trains qui s'arrêtent uniquement à Argenteuil. C'est facile, vous prenez la gare d'Argenteuil. Et devant la gare, c'est très facile. On passe vraiment là devant, bien visiblement.
Elle est très belle, cette affiche. Est-ce que vous avez la possibilité d'en mettre pas mal un peu partout?
Oui.
Parce qu'elle est très belle.
Oui, cette année on l'a fait comme ça, on en a toujours un peu différent chaque année.
On voit comme ça avant. Sur un beau fond de ciel bleu.
Oui, c'est
elle
ça.
Elle est très belle.
C'est la couleur mariale, n'est-ce pas?
Elle monte, oui, elle monte vers le ciel.
Oui. Et je crois que c'est vraiment providentiel que vous puissiez faire cette procession, ce pèlerinage, juste avant la Semaine Sainte, c'est-à-dire vraiment pour que le monde puisse méditer sur la Passion de notre Seigneur. Il nous reste une minute, est-ce que vous pouvez redire, je vois qu'il y a un téléphone, est-ce qu'on peut, si on a besoin d'un renseignement, est-ce que vous pouvez nous donner ce numéro de téléphone?
Oui, c'est téléphone, fax, répondeur, c'est tout pareil, 01 34 12 02 68.
Alors, je vais le répéter, c'est le téléphone donc pour le pèlerinage de la Sainte Tunique d'Argenteuil le 5 avril 2009. On peut téléphoner pour avoir des renseignements au 01 34 12 02 68. Vous étiez 500 l'an dernier, vous serez 1000 l'an prochain.
J'espère, ça serait magnifique. Voilà.
C'est impressionnant dans les rues de voir cette procession de 500 personnes dans la rue principale, vous voulez dire, d'Argenteuil.
C'est vrai. Et si l'on pense que cette ville, elle a maintenant 60% d'immigrés, qu'elle était communiste pendant 50 ans, jusqu'à tout récemment, c'est quand même étonnant que cette procession est absolument respectée, qu'on n'a jamais eu un problème. Et ça se passe
toujours. témoignage de foi.
C'est magnifique.
Merci beaucoup, monsieur.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6 MHz.